Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Au sommaire de ce Mondoscopie cette semaine, une taxe à but humanitaire. À partir du 1er juillet, 14 pays vont appliquer une taxe sur les billets d'avion, une façon de proposer un mode de financement pour les médicaments à destination des pays en développement. Du côté des organisations humanitaires, on approuve l'initiative, même si certains y voient l'expression d'une hypocrisie internationale. Nous y consacrerons une large partie de notre magazine. Et puis humanitaire toujours, avec une redéfinition de ce qu'est l'humanitaire aujourd'hui. Une activité qui, à l'origine, s'appuie sur la charité. Qu'en reste-t-il plusieurs siècles après l'apparition de cette conscience mondiale, quand une fenêtre s'est ouverte sur le monde ? Vous l'avez compris, ce Mondoscopie sera donc entièrement consacré à l'humanitaire, un vaste champ d'investigation que nous avons très souvent exploré dans notre magazine. Il était tout naturel de l'évoquer pour une dernière fois, puisque ce numéro de Mondoscopie est le dernier d'une longue série. Nous y reviendrons en fin d'émission avec l'un de ses papas que vous suivez depuis 4 ans maintenant, Bernard de Cotigny. United, c'est le nom d'une nouvelle contribution internationale qui s'appliquera dès le 1er juillet. 14 pays, dont la France, qui est à l'initiative du projet, vont appliquer une taxe sur les billets d'avion entre 1 euro et 40 euros par billet selon la destination et la classe de voyage, ce qui devrait rapporter 200 millions d'euros par an pour l'achat de médicaments pour les pays en voie de développement. Une façon de proposer un mode de financement de traitement pour le sida notamment. On s'en félicite du côté de Médecins du Monde. Écoutez le docteur Françoise Sauvignon, radiologue. Elle est l'un des référents de l'organisation sur les questions de sida.
Pour Médecins du Monde, c'est une idée qui a été favorablement accueillie, hein, puisqu'on est toujours à la recherche, nous et en particulier les bénéficiaires de nos programmes, de financement pérenne. Donc c'est la première marche vers, on l'espère, des financements qui soient pérennes, solidaires, des financements auxquels souscrivent les pays et l'ensemble des pays, de façon obligatoire.
Alors Paris compte récolter 3 millions de dollars par an. Que représente ce chiffre par rapport aux besoins financiers ?
Les besoins financiers, écoutez, pour l'instant, ils ont été de plus d'un milliard de dollars, je crois, 1,6 milliard très exactement en 2005. Il en faudrait beaucoup plus hein, pour répondre à l'ensemble des besoins. Il en faut entre 8 et 10 milliards par an. Donc tout ce qui contribue à faire grimper ces financements est bien entendu bienvenu. En particulier tout ce qui correspond à une taxation des produits de la mondialisation. Et dans ce sens-là, cette taxe aérienne est bien le reflet de ce que veut la communauté internationale engagée autour de ce thème, c'est-à-dire des financements pérennes, obligatoire et issu de la mondialisation. Alors le sida dans le monde, c'est un état qui est plus facile à faire maintenant parce qu'il y a un rapport récent de l'ONU sida hein, qui date de quelques semaines, hein, de mai 2006, qui fait état de la chose suivante, c'est-à-dire que l'épidémie se stabilise, où on a quelques espoirs qui viennent pointer hein, au bout du chemin. En particulier en ce qui concerne la prévention, c'est-à-dire que la prévention commence à être mieux assurée dans quelques pays, notamment au Kenya, en Haïti, au Zimbabwe. Et elle touche en particulier cette prévention de façon efficace les populations des jeunes hein, de 15 à 24 ans. En termes de financement, comme on vient de le dire, on est quand même à 1 milliard par an. Il en faudrait beaucoup plus. Il y a des fonds qui ont été mis en place, en particulier, vous avez dû entendre parler du fonds global, hein, qui est un fonds de financement multilatéral, transparent, qui fonctionne bien. En termes d'accès au traitement aussi, il y a des espoirs. Hein. En 2001, 250 000 patients environ, personnes vivant avec le VIH, avaient accès au traitement. En 2005, on est à plus d'un million, 1,3 million, alors que malgré tout, 6 millions de personnes dans le monde auraient besoin de ces traitements. Hein. Donc la prévention va mieux, l'accès au traitement commence à s'améliorer, il y a des progrès en termes de financement. Ceci dit, on est loin de ce qu'il faudrait mettre en place à l'échelle du monde et de l'Afrique subsaharienne en particulier.
Alors vous parliez des progrès en termes de financement, justement. Quelles sont les principales aides financières mobilisées chaque année en ce qui concerne la lutte contre le sida ?
En dehors des aides strictement liées aux programmes nationaux, hein, il y a un financement qui a été mis en place en 2002 qui s'appelle le Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est un financement multilatéral, hein, donc avec plusieurs pays donateurs qui fonctionne bien, qui pêche un peu par le défaut d'engagement de certains pays encore. Ces engagements sont restés à des déclarations d'intention, en fait. Donc, il faudrait un fonds qui soit mieux alimenté.
Alors, pour en revenir à cette taxe, une grande partie de l'argent servira à financer les soins pour les enfants malades du sida. La priorité est-elle la même sur le terrain ?
Ce qui s'appelle la FIAM, l'Unitaid, maintenant, c'est un mécanisme de financement qui va financer des médicaments. Les médicaments, vous parliez des médicaments à visée pédiatrique. Il y a eu un colloque la semaine dernière à Paris sur enfance et sida. Fait état du fait que les financements manquent auprès des enfants, l'accès au traitement pédiatrique manque, puisqu'il y a seulement un enfant sur 20 dans le monde qui bénéficie de cet accès aux antirétroviraux, avec, il faut le savoir aussi, des formulations pédiatriques qui ne sont pas adaptées aux tout petits. Donc il y a beaucoup de progrès à faire en termes de développement de formulations pédiatriques et d'accès au traitement pédiatrique, tout simplement.
Alors j'aurais une dernière question. Cette taxe ne sera pas facultative, bien sûr, mais imposée à tous les voyageurs. Est-ce la seule solution pour pallier le manque de dons et d'initiatives personnelles, selon vous ?
Non, c'est une des solutions. Alors celle-là, elle a été mise en place parce qu'elle est relativement simple, je pense, à mettre en place, à ce qu'elle soit opérationnelle rapidement. Il y a eu d'autres initiatives. Je sais que parallèlement à ça, et ça a déjà débuté ou ça va débuter, il y aura des sollicitations via Internet, via des SMS. Donc ça, ce sont des sollicitations individuelles. Après, il faut une volonté politique des États, non seulement des États des pays développés, mais des pays en développement, une volonté politique forte à mettre le paquet, en quelque sorte, en termes de financement sur cette pandémie de sida. C'est-à-dire qu'en mettre en priorité la lutte contre ce problème de santé publique, en particulier en Afrique subsaharienne, mais pas seulement en Afrique subsaharienne, en Asie, en Europe de l'Est, où l'épidémie va vite également. Il faut rester mobilisé parce que, autant ici en France et dans les pays occidentaux, on a tendance à un petit peu baisser les bras sur la prévention. Bon, l'accès au traitement est en principe à peu près couvert, mais en tout cas sur la prévention, en particulier auprès des groupes à risque, et en France en particulier auprès des migrants d'Afrique subsaharienne qui, eux, représentent le pool de patients qui arrivent nouvellement infectés sur le territoire français. Il ne faut pas baisser les bras du tout au niveau international. C'est une lutte qui continue avec beaucoup de militantisme autour et une grande, grande volonté politique.
Voilà pour les explications du docteur Françoise Sauvignon, radiologue. Elle travaille notamment pour Médecins du Monde. Cette taxe sur les billets d'avion reste toutefois très critiquée par certains dans le milieu humanitaire, car si tout le monde se réjouit de voir 200 millions d'euros rentrer chaque année dans l'escarcelle de la solidarité mondiale, certains émettent de sérieuses réserves quant à la motivation des pays qui ont proposé cette nouvelle contribution, à l'image de Damien Millet, responsable France du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Écoutez-le.
Cette idée-là n'ont pas réfléchi à pourquoi faire et quels moyens pour parvenir au but fixé. On nous dit on va faire une taxe internationale sur les billets d'avion pour lutter contre les problèmes de santé dans le monde et notamment sur trois maladies bien précises, la malaria, la tuberculose, le sida, etc. Très bien, sur le principe. Je crois que l'énorme mérite, mais le seul de cette taxe, c'est de montrer à tout le monde qu'une taxe internationale est effectivement possible. C'est quelque chose qu'on dit nous depuis des années. On demande des taxes, par exemple, une taxe de type Tobin sur la spéculation internationale. Et donc, oui, ce mérite est là. Ceux qui nous répondaient depuis des années, c'est une belle idée, mais c'est complètement utopique et c'est irréalisable, eh bien maintenant, eux ont décidé de mettre en place une taxe. Maintenant, ce n'est pas tout à fait celle qu'on attendait. Pourquoi ? Parce que si le véritable but était de lutter contre les problèmes de santé et d'accès aux soins de santé dans le monde, c'est pas le bon outil. Parce qu'on laisse à côté de cette taxe qui va rapporter à peu près 200 millions d'euros en année pleine, on laisse à côté de cette taxe le mécanisme de la dette qui lui ponctionne des pays du Sud environ 380 milliards d'euros chaque année. Et parallèlement à cette dette, les pays du Sud sont contraints d'appliquer les politiques exigées par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, par le G8, par les grandes puissances, où on leur impose de réformer leur économie avec des mesures bien précises comme des privatisations, et donc la santé est de plus en plus privatisée, avec des réductions des budgets sociaux, et les budgets de santé publique sont de plus en plus réduits. Parfois, on va construire quelques cases de santé, mais de toute façon, on interdit à l'État de former des aides-soignants, de former des médecins et de les recruter. Donc, pour les populations, l'accès se réduit aux soins de santé. Et donc, on va laisser cette mécanique infernale de la dette, et elle empêche beaucoup plus les pays d'organiser leur santé comme ils le voudraient, comme ils en auraient besoin, que cette taxe qui va permettre finalement d'apporter quelques centaines de millions d'euros, qui sont pas négligeables, mais qui sont quand même très très loin de ce que la dette va les priver.
D'autres mesures simples auraient permis d'être largement plus efficaces, selon vous?
Oui, parce que l'annulation de la dette, c'est quelque chose de simple. À partir du moment où le créancier dit au pays endetté « Vous n'avez pas à me rembourser », c'est fini, la créance, elle est annulée, il suffit de tirer un trait dans un livre de compte. Et donc, on aurait pu, de ce fait-là, faire en sorte que les richesses créées au Sud, et elles sont gigantesques, il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le piège qui est développé par certains analystes financiers qui disent « Ces pays ne créent pas assez de richesses, et donc il faut en envoyer chez eux. » Et donc, c'est l'endettement. Il faut que ces pays empruntent des capitaux qui sont à l'étranger parce qu'ils n'en ont pas assez. Ils créent beaucoup de richesses. Mais ces richesses, elles ne restent pas dans ces pays. C'est-à-dire qu'ils ont des richesses naturelles, mais elles sont aspirées par les grandes multinationales qui sont sur le terrain et qui les extraient la plupart du temps de façon très avide. Et il reste quoi dans le pays? Il reste un petit pourcentage. On sait très bien que certains pays producteurs de pétrole ou qui détiennent des minerais dans leur sous-sol récupèrent quoi? 12, 15, 18% maximum du montant total que représentent les ventes de ce minerai, mais que la grande part de la richesse est accaparée par les sociétés multinationales. Il y a des richesses humaines dans ces pays, mais on sait bien qu'avec ce concept d'immigration choisie, eh bien, on va essentiellement attirer vers le nord ceux qui ont justement la plus grande richesse humaine et qui pourraient peut-être contribuer le plus au développement de leur pays. Et puis, il y a des richesses financières, et le service de la dette, eh bien, accapare une bonne part de ces richesses financières, de même que la fuite des capitaux, c'est-à-dire le détournement d'argent de manière légale ou illégale, mais l'argent des élites du Sud qui est placé au nord détourne ces capitaux, etc. Toutes sortes de mécanismes qui finalement aspirent les richesses des pays du Sud pour les emmener vers l'extérieur, vers des personnes en général ou vers des institutions qui sont déjà très riches. Et donc il faudrait poser la question, comment faire en sorte pour que les richesses produites au Sud profitent au développement du Sud et s'investissent au Sud? Et tant que le mécanisme de la dette existera, il empêchera d'apporter une réponse satisfaisante à cette question-là.
Ceci dit, cette taxe semble plutôt bien accueillie par le grand public. On voit même des références à United dans les matchs de football en ce moment pendant la Coupe du Monde.
Oui, donc ça, c'est tout le folklore qu'on développe autour de ce projet. À chaque match de foot, il y a un ballon où est marqué United, la FIFA est partenaire. Mais c'est quand même aussi poser la question. On se rend compte que c'est la Coupe du Monde de football, qui est un objet incroyablement mondialisé, qui est un des symboles les plus grands possibles de la mondialisation, finalement porte le projet de cette taxe. Je crois que ça veut bien dire que finalement elle ne remet pas en cause les fondements même de cette mondialisation, alors que cette mondialisation financière avant tout, je crois qu'il faut poser la question, est-ce que c'est ce système-là qui peut permettre un accès universel aux soins de santé, mais aussi un accès universel à une éducation primaire, à l'eau potable, à une alimentation décente? Pour ma part, je crois que non, puisqu'au contraire, c'est ce système qui a organisé une inégale répartition de la richesse. C'est lui qui organise l'injustice à l'échelle de la planète, parce que c'est la meilleure façon de faire des profits dans ce modèle-là. Et si on ne remet pas en cause le fondement même, eh bien, on va avoir de sérieuses déconvenues, parce qu'on va avoir des effets d'annonce, on va avoir des satisfactions autoproclamées, mais finalement, on va apporter aucune solution sur le terrain. Et je crois que c'est là aussi un des buts de cette taxe-là, comme un des buts du discours général sur l'aide ou sur la réduction de la dette qu'on entend de temps en temps, ou sur la lutte contre la corruption. Finalement, si on regarde bien ce modèle économique et ceux qui le défendent aujourd'hui, eh bien on se rend compte que ils font semblant. On fait semblant de taxer ceux qui détiennent des richesses pour aider à soigner ceux qui sont dans les pays pauvres. Mais on va se contenter de faire semblant, et finalement, la meilleure réussite, ce sera une réussite médiatique. Ce ne sera pas une réussite de terrain, ce ne sera pas une réussite médicale, ce sera une réussite médiatique. Et ça pose un vrai problème. Et finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire croire aux gens qu'on est en train de régler le problème. Voilà, on est en train de régler le problème des inégalités avec cette taxe, on est en train de régler le problème de l'accès aux soins de santé avec cette taxe, mais en fait, on ne règle aucun de ces deux problèmes-là, on fait croire. Et finalement, elle permet d'anesthésier toute forme de contestation, parce qu'elle récupère le vocabulaire des opposants du modèle actuel pour le mettre dans un autre contexte, pour le détourner et pour finalement permettre à ce système actuel de se perpétuer. Et je crois qu'il faut le remettre en cause ses propres fondements. Ce système fait croire qu'il organise la solution alors que c'est lui-même qui est le problème.
Plusieurs scandales ont éclaboussé le milieu de l'humanitaire ces dernières années. Avec stupeur et effroi, l'opinion publique a réalisé que les plus beaux projets peuvent parfois être souillés par les pires comportements humains. Et pourtant, ces quelques scandales ne doivent pas faire oublier toute la noblesse de l'humanitaire, une activité qui est née d'elle-même, s'appuyant sur la valeur universelle de charité, ce qui ne date pas d'hier. Alors qu'en reste-t-il aujourd'hui, à l'heure où les ONG sont sur la sellette médiatique? À l'heure où les ONG sont devenues des référents pour le monde. Écoutez Henri Rouillet d'Orfeuil, il préside Coordination Sud, la coordination des ONG françaises de la CIRAD. Il est également l'auteur des ONG peuvent-elles changer le monde? Il revient sur les origines de l'humanitaire, écoutez-le.
On a encore aujourd'hui les chevaliers de Malte, par exemple, qui peuvent être considérés comme des humanitaires de l'époque des croisades, puisqu'ils organisaient des relais de santé, de soins, au long des croisades. Bon, mais sans remonter jusque-là, au fil des siècles, il y a toujours eu des organisations gouvernementales, souvent d'ailleurs liées à l'Église, qui assuraient beaucoup de travail social, sanitaire. Et puis, il y a eu, effectivement, au XVIIIe siècle, notamment en Europe, en France, ce qu'on appelle le siècle des Lumières, où il y a eu l'éveil d'une conscience sur beaucoup de problèmes qui sont liés aux droits humains et puis enfin au 19e. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la première grande organisation non gouvernementale contemporaine, c'est sans doute la Croix-Rouge, qui est née dans la deuxième moitié du 19e, de l'observation par Henri Dunant des catastrophes liées au conflit, notamment à la guerre Solferino, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts en une seule journée. Et donc la décision d'organiser un système de santé adapté au conflit où les médecins pouvaient accéder aux victimes dans la neutralité de leur travail. Il y a eu également toutes les campagnes sur l'abolition de l'esclavage, enfin beaucoup de mouvements qui n'ont pas eu une forme bien stéréotypée à l'époque, mais qui était de la même nature que nos ONG.
Est-ce que l'esprit de charité qui animait certains mouvements antérieurs aux ONG est encore présent aujourd'hui dans certaines organisations non gouvernementales, ou pensez-vous qu'il a été écarté parce qu'on l'opposait en fait au professionnalisme?
Peut-être c'est plutôt le mot solidarité aujourd'hui, mais l'esprit de charité tel que beaucoup de nos prédécesseurs ou ancêtres connu, ce mot existe. D'abord, il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui travaillent sous forme associative, notamment qui sont regroupés au niveau international. Par exemple, Caritas Internationalis, qui regroupe des Caritas nationales, ou en France, le Secours catholique, par exemple, ou le Comité catholique contre la faim, qui est, disons, une association consacrée à 100% au problème de solidarité internationale. Donc ces organisations-là sont évidemment dans la tradition chrétienne historique, mais c'est une tradition qui a été renouvelée à bien des époques par la doctrine sociale de l'Église fin du XIXe siècle, plus récemment par l'encyclique Populorum Progressio du pape Jean XXIII au début des années 60, qui prenait acte au fond de la décolonisation et considérait que le travail de développement, d'appui au développement, devenait un acte de solidarité majeur avec les pays nouvellement indépendants. Donc si vous voulez, l'esprit est là, si on peut dire, et évidemment ça s'interprète en fonction de l'évolution des valeurs et des sentiments. Et puis évidemment il y a des mouvements qui restent chrétiens, puis il y a des mouvements qui sont d'origine chrétienne mais sécularisés, et puis il y a des mouvements qui n'ont pas de référence au christianisme, évidemment, qui peuvent exister liés à d'autres religions ou qui sont simplement laïques. Nous, dans notre famille, dans nos familles d'ONG, on professe une certaine laïcité, ce qui ne veut pas dire qu'on interdit à quiconque d'afficher ses croyances. Au contraire, c'est un facteur de liberté pour permettre à tout le monde de travailler ensemble.
Finalement, qu'est-ce qui vous frappe, vous, au cours des 10-15 dernières années dans le travail des ONG, au-delà du travail technique? Est-ce que c'est cette capacité à mobiliser et à montrer que ce n'est pas un rêve utopiste de quelques-uns, cette volonté d'être en réseau, dans un réseau de solidarité internationale?
Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a... Oui, c'est vrai, il y a des messages contradictoires, mais il y a une reconnaissance du travail des ONG par l'opinion publique. C'est-à-dire que dans pratiquement tous les sondages, quand vous demandez en Europe occidentale, par exemple, quelles sont les grandes causes de l'heure, du moment, vous avez toujours le chômage, puis après vous tombez sur la faim dans le monde, la misère, sous-développement, etc. Ce sont des causes qui sont populaires. Et quand vous demandez qui est le plus crédible pour intervenir, vous avez presque toujours les ONG en tête. Et vous avez les gouvernements, l'Europe, les Nations Unies, etc. Alors dans un ordre inverse de ce que je viens de dire, loin derrière en général. Donc vous avez cette crédibilité qui est pas en cause, même si il peut y avoir quelques scandales de temps à autre, parce que ça c'est malheureusement de la sociologie aussi. Mais ça n'entache pas globalement l'action des ONG. Deuxièmement, c'est vrai qu'elles remplissent des tâches aujourd'hui qui sont souvent pas remplies. On le voit dans l'humanitaire, mais aussi dans le développement, dans l'environnement. Enfin, il n'y aurait pas de conscience planétaire, si vous voulez, si les ONG n'avaient pas lancé ces mouvements dans les années 70 et puis à un moment de Rio en 90. Donc vous avez une reconnaissance qui est réelle. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a des problèmes d'appui, de moyens, qui fait que on nous reconnaît des tâches qui sont très au-dessus de ce qu'on peut faire, quoi. On n'a pas les moyens de faire ce qu'on nous demande de faire, que ce soit particulièrement dans le champ du développement, par exemple, qui est monstrueux, qui est énorme. Vous voyez, il y a quand même 1,5 milliard de pauvres. Alors si on attend que les ONG s'occupent de tous les pauvres du monde, de tous les conflits et de tous les problèmes d'environnement, c'est impossible. On témoigne, en fait. On témoigne, on dit que des solutions sont possibles, on alerte l'opinion, et puis on essaye de mobiliser les forces étatiques, nationales ou internationales. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, sur la scène, les ONG ont une place, un rôle, et notre bagarre, c'est aussi d'avoir les moyens qui nous permettent de remplir ces fonctions qui nous sont volontiers concédées.
Voilà pour l'analyse, signée Henri Rouillet-Dorfeuille de la CIRAD. Il était interrogé par Laure Stéphan. Voilà, c'est la fin de ce magazine, mais c'est surtout le dernier Mondoscopie, le dernier d'une longue série. Alors vous le savez, la plus grande majorité de ces émissions ont été réalisées par Bernard de Cotigny, à qui je laisse les mots de la fin. Bernard, c'est la fin d'une belle aventure que vous avez menée sur les 5 continents pendant 4 ans.
Oui, merci David. Alors c'est vrai, comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin et ce Mondoscopie se termine donc en cette fin juin 2006. Malheureusement, à la rentrée septembre 2006, pas de reprise de Mondoscopie. Alors le motif est tout simple, comme dans toutes les grandes entreprises, et Radio Vatican est une entreprise, restrictions budgétaires et puis compression de personnel. Et donc finalement, il a fallu faire des choix et Mondoscopie donc disparaît et meurt de sa belle mort, pour ainsi dire. Donc cette coproduction Radio Vatican RCF ne sera plus. Ça a été une belle expérience pour moi, une expérience que j'ai partagée, comme vous l'avez dit, avec vous-même cette année, et puis au début, donc la première année avec Romilda Ferrotto. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission, et je vous retrouverai moi-même dans d'autres émissions, bien sûr, notamment le magazine religieux et puis les émissions d'information comme d'habitude. Et puis vous-même David, bon vent en quelque sorte, puisque vous nous quittez ainsi que Céline Oyo pour d'autres horizons.
Merci Bernard pour tous ces mondoscopies, et puis à très bientôt.